Chapitre 27. Odile et son mari ne partirent pas en voyage de noces. Leur mariage, aux yeux de M. Vurzel, n'était qu'une étape. Ce qui importait à présent, c'est que Jean-Noël prit conscience de ses responsabilités, qu'avant de songer au plaisir, il organisa sa vie. Dans sa hâte de se marier, Odile n'avait pas prêté attention aux questions d'argent. Mais dès qu'elle fut installée dans cet appartement de la rue de Babylone, dont elle disait qu'il donnait sur les jardins d'un couvent, employant le pluriel comme Jean-Noël quand il parlait de médecins, ainsi que ces gens qui, prêts à tous les sacrifices tant qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils désirent, se ressaisissent aussitôt après, elle s'efforça de persuader son mari de la nécessité où il était désormais d'entrer dans les affaires de M. Vurzel. Certaines valeurs qu'elle possédait ne venaient-elles pas de supprimer leurs dividendes? Mais Jean-Noël ne voulait pas entendre parler de sa belle famille. « Je suis encore jeune. Dans un an, si je travaille, je peux passer ma licence. Pour réussir dans les affaires, il faut avoir des dispositions spéciales », répétait-il chaque jour, en laissant entendre que ces dispositions, il était fier de ne pas les avoir. Il consentit cependant à aller dîner une fois par semaine boulevard du Montparnasse. Il se conduisait alors comme le porteur de nom illustre qui a été obligé de faire un mariage d'argent. Cette attitude ne le desservit pourtant pas. On le considérait comme un original. Maintenant qu'il était de la famille, quelque désagréable qu'il fût, on fermait les yeux sur ses défauts. Puis Odile se rapprocha de son père. Une sorte de complicité même naquit entre celui-ci et elle. Elle le tenait au courant de tous les projets de Jean-Noël et, souvent, il lui donnait le conseil assez inattendu d'obéir à son mari, de ne pas le critiquer. Elle se rapprocha également de Madame Mercier. Si Jean-Noël avait honte de sa mère, il devait du moins être touché qu'on s'occupât d'elle. « Ta mère ne peut pas continuer à vivre dans cette chambre, » lui dit-elle un jour. Elle loua un petit appartement avec une salle de bain dans un immeuble neuf et, comme si elle ne faisait que dévoiler la bonté de son mari, alla l'annoncer à Madame Mercier. À son grand étonnement, celle-ci refusa de quitter la rue Mouton-du-Vernay. Elle était trop vieille pour changer encore. Elle avait toujours vécu à l'étroit. Elle ne saurait s'habituer à un appartement. Si elle acceptait et qu'il venait à Jean-Noël l'idée de disparaître, ce qui était possible, car on pouvait s'attendre à tout de sa part, comment acquitterait-elle le loyer? Elle avait d'autre part la manie de la persécution. Elle crut qu'on cherchait à l'isoler pour des fins mystérieuses. Rue Mouton-du-Vernay, au moins, elle était en sécurité. Quant à Émile, il était convaincu qu'Odile les détestait, lui et sa mère, et que cette sollicitude n'était inspirée que par un orgueil de belle-fille, ne voulant pas avoir à rougir de la famille de son mari. Si on tenait tant à leur venir en aide, il y avait un moyen beaucoup plus simple, leur donner de l'argent. Quand Jean-Noël avait abandonné ses études, abandon dont il se plaisait à dire que son amour pour Madame Mourier avait été en partie la cause, il n'avait pas pensé qu'il les reprendrait un jour. Débarrassé de cette préoccupation, en même temps qu'il avait été de Marguerite, il s'était senti libre, heureux. À quoi lui eût-il servi de continuer à perdre son temps sur des cours polycopiés lorsque la vie, avec sa variété et sa richesse, s'offrait à lui? Aujourd'hui seulement, c'est-à-dire 3 ans plus tard, il comprenait combien il avait été imprévoyant. Il s'inscrivit donc de nouveau à la faculté de droit, cela contre la volonté d'Odile. Ce ne fut pourtant pas uniquement par désir de terminer ses études qu'il le fit, quoi qu'il le prétendît, mais pour remplacer par quelque chose le prestige que lui avait valu la présence devinée d'Annie. Jusqu'en mars 1927, il suivit assez régulièrement des cours. Puis il se lassa de jouer cette comédie. Odile en profita pour revenir à la charge, d'autant plus énergiquement que son père lui peignait quotidiennement l'avenir sous un jour de plus en plus sombre. Il s'aperçut alors avec surprise que l'éventualité de devenir le collaborateur de M. Vurzel ne lui était plus aussi désagréable. Il refusa cependant, pour la forme, désireux qu'il était, affirma-t-il, de se présenter en juillet à son examen de licence. Madame Mercier, qui avait enfin accepté de prendre possession du petit appartement qu'Odile lui avait loué dans un immeuble de la ville de Paris, situé à la porte d'Orléans, venait assez souvent rue de Babylone. Un jour, comme elle se trouvait seule avec son fils, elle lui dit « Fais attention, Jean-Noël, j'ai l'impression que quelque chose se trame contre toi. » Un simple conciliabule entre Odile et son jeune frère Maurice était la cause de cet étrange avertissement. M. Wurzel, qui tremblait de plus en plus pour sa fortune, qui ne parlait plus que de communisme sur le point d'être implanté en France, qui, pour cette raison justement, s'était rapproché de Jean-Noël, car peu à peu s'était glissé en lui l'idée que bientôt tout serait égaux et qu'il fallait par conséquent prendre les devants, décida à ce moment d'employer Émile. Odile, qui avait été pour beaucoup dans cette décision, eut beau faire comprendre à son mari qu'Émile et Madame Mercier cessant d'être à charge, le budget en serait allégé, Jean-Noël entra dans une vive colère. Il y avait seulement quelques semaines, il eût répondu par de l'indifférence. Mais aujourd'hui, sans doute au contact quotidien des Wurzel, il était arrivé, sans s'en apercevoir, à considérer un peu les intérêts de sa belle famille comme les siens. Aussi, bien qu'il eût continuellement fait allusion à son mépris pour les Wurzel, à sa splendeur passée, à l'avenir brillant qu'il attendait, il n'avait pu se défendre d'un sentiment de jalousie pour son frère. Quelques jours plus tard, quand Odile lui demanda pour la centième fois de se résoudre enfin à entrer dans les affaires de son père, il lui répondit qu'elle avait peut-être raison. Jean-Noël prit un certain plaisir à ses nouvelles occupations. Le matin, quand il se rendait aux tanneries, son apparition faisait sur les employés et les ouvriers un petit effet dont il était flatté. Lorsqu'il eut fait un stage dans les différents services, M. Wurzel, dont l'intention était de se retirer, lui confia au 1er juin, date où le ralentissement de la production permettrait à Jean-Noël de se familiariser plus facilement avec sa nouvelle fonction, la direction de la moins importante de ses tanneries, celle de la rue de la Glacière. Il déjeunait ou dînait presque quotidiennement boulevard du Montparnasse. Odile était au comble du bonheur. Ses frères venaient la chercher rue de Babylone. Ils allaient parfois tous ensemble au théâtre. Madame Mercier et Émile avaient cessé de se plaindre. De l'hostilité que tout le monde avait témoignée à Jean-Noël, il ne restait rien. Puisqu'il faisait son devoir, ne devait-on pas en échange lui en être reconnaissant ? Cependant, il était parfois en proie à une grande tristesse. Il songeait alors à son enfance et il lui apparaissait qu'il avait manqué sa vie. Qu'eût pensé son père s'il avait pu le voir au milieu de tous ces gens sans intérêt ? N'était-ce pas autre chose que M. Ettlinger avait attendu de son fils aîné, de celui pour lequel il avait montré une si nette préférence ? À quoi avaient donc servi toutes les années qui venaient de s'écouler ? Elles s'étaient succédées comme les jours d'un oisif, sans rapport entre elles, sans raison d'être, et aujourd'hui, il se retrouvait plus vieux simplement, mais non amélioré. Ce n'était pas lui qui avait fait sa vie, mais celle-ci qui l'avait fait. S'il avait terminé ses études, eût-il été plus heureux ? On ne pouvait le dire, mais il aurait au moins eu la consolation d'avoir fait ce qu'il avait pu. Annie eût pu reparaître. Au lieu de le trouver marié, directeur d'une tannerie, commensal quotidien des Wurzel, elle eût découvert avec joie qu'il était devenu un homme indépendant. Depuis que les soucis matériels avaient disparu de sa vie, son admiration pour sa belle-mère, que l'absence venait encore embellir, n'avait fait que croître. Annie lui rappelait à présent toute sa jeunesse et celle-ci, à travers la tâche journalière, lui semblait n'avoir été qu'heureuse. Comme ces anciens combattants qui retournent en pèlerinage sur les lieux mêmes où ils ont le plus souffert et qui, devant une tranchée comblée, se prennent à regretter les années terribles qu'ils y ont vécues, il aurait voulu redevenir ce jeune homme que la seule présence de sa belle-mère emplissait de fierté. La foi qu'il avait eue en lui-même, il l'avait perdue. Il s'en souvenait pourtant, et lorsqu'il se penchait sur elle, il avait le sentiment qu'il eût gardé si Marguerite et Odile, si M. et Mme Wurzel, si Maurice et Simon, si sa mère et son frère ne s'étaient pas trouvés sur son chemin. Aussi, quand, dans les premiers jours de juillet, le concierge lui remit une lettre d'Annie lui annonçant qu'elle était rentrée à Paris et qu'elle voulait le voir, eut-il brusquement l'impression qu'une bouffée d'air printanier entrait dans sa vie. C'était comme si le fossé qui le séparait du passé venait d'être comblé, comme si cette continuité dont l'absence le faisait tant souffrir s'était rétablie, et que l'homme qu'il était devenu cessait d'être différent de celui qu'il avait été. Il remonta chez lui. Odile, comme elle le faisait chaque matin, téléphonait de son lit à son père. En voyant revenir Jean-Noël, elle sourit et lui fit signe d'attendre. Puis elle l'interrogea du regard. « Je viens de recevoir une lettre de ma belle-mère, » dit Jean-Noël avec le plus de naturel possible, de manière à cacher sa joie. « Ah !» Ce fut la seule réponse d'Odile. De souriant, son visage était devenu grave. Au seul mot de belle-mère, elle pâlissait. Bien qu'il y eût des années qu'elle n'avait pas revu Madame Ettlinger, sa méfiance et sa jalousie s'étaient accrues. « Elle me demande d'aller la voir, » continua Jean-Noël. « Donne-moi cette lettre !» Il obéit, mais à contre-cœur, comme si le simple mot de belle-mère était confidentiel et qu'il commettait une mauvaise action en le montrant. Odile le parcourut, les lèvres serrées, puis le rendit à son mari. « Tu n'as qu'à y aller, » dit-elle, « si tu crois que c'est nécessaire. Mais il faudrait peut-être que tu attendes quelques jours. Pourquoi ?»« Tu sais bien que tu as beaucoup de travail en ce moment. » Odile avait une mantille de dentelle sur les épaules. Les deux oreillers, celui de son mari et le sien, lui servaient de dossier. Elle semblait ne plus songer déjà à Madame Ettlinger. Jean-Noël la regarda. Comme il était debout, il crut qu'elle avait les yeux fermés alors qu'il n'était que baissé. Durant un instant, il se sentit seul. La chambre lui apparut alors, avec son confort et son luxe banal, avec son lit divan, ses murs couverts de papier beige uni, son tapis à vannes, ses glaces volontairement sans cadre, ses lampes, ses meubles et cette salle de bain qu'on apercevait par une porte entr'ouverte, où Odile et lui se baignaient à tour de rôle, avec chaque fois les mêmes petites scènes de pudeur. Et c'était au milieu de ce décor qu'Odile se permettait de lui dire qu'il avait beaucoup de travail, qu'il valait mieux qu'il attendît quelques jours avant de répondre à l'appel d'Annie. « Je crois que j'irai voir ma belle-mère aujourd'hui, » fit Jean-Noël. « Il fallait me prévenir plus tôt, pendant que je téléphonais. J'aurais mis papa au courant. » La journée sembla longue à Jean-Noël. Plusieurs fois, il relut la lettre d'Annie. Un détail l'avait surpris, l'adresse. Sa belle-mère était descendue à l'hôtel des grands hommes. Elle était donc seule, car autrement, comment admettre qu'elle eût choisi un hôtel où elle avait séjourné plusieurs fois avec Jean Melchior et dont, pour cette raison, elle parlait toujours avec attendrissement? Il était 6h30 lorsque Jean-Noël se rendit à pied place du Panthéon. Le soleil était encore haut dans le ciel, mais l'animation des rues, la détente des visages, était celle d'une fin de journée. Jean-Noël remonta la rue Claude-Bernard, prit la rue d'Ulm, au bout de laquelle, ce côté, d'ordinaire lugubre du Panthéon, et semblable à une falaise, était de ce rose des églises au soleil couchant. Il marchait tête nue. Il était si ému que, comme s'il s'était promené sous bois après un orage, il avait la sensation parfois qu'une grosse goutte traversait ses cheveux. « Est-ce que Madame Ettlinger est là ?» Elle venait de sortir, mais le portier croyait qu'elle n'allait pas tarder à rentrer, car il avait remarqué qu'elle s'absentait ainsi chaque jour. Jean-Noël fit en attendant le tour de la place. Annie était donc depuis plusieurs jours à Paris. Elle avait certainement été chez Madame Mourier, car comment eût-elle su sans cela son adresse? Qu'avait dit Laure? Avait-elle raconté que Jean-Noël était marié avec Mademoiselle Wurzel? Soudain, alors qu'il s'était avancé jusqu'au commissariat de la rue Soufflot, il aperçut Annie qui arrivait à sa rencontre. Elle ne l'avait pas encore vue. Elle marchait vite, les yeux baissés, sans paraître attacher la plus petite importance à la beauté de cette fin de journée, deux ou trois paquets dans les bras, de cette démarche sur la pointe des pieds qu'il reconnaissait entre toutes. Jean-Noël s'arrêta, ne sachant pas ce qu'il devait faire, tellement il était bouleversé. Dans son souvenir, elle lui était toujours apparue seule, aussi de l'avoir vêtue de sombre, mêlée aux passants et semblable à eux, fut-il frappé, comme le sont les enfants, quand ils commencent à découvrir que l'autorité de leur père ne s'exerce que sur leur famille. Une ombre de déception passa sur sa joie. Bientôt, Annie se trouva tout près de lui, mais elle ne le vit pas davantage. « Annie !» Elle leva la tête, regarda son beau-fils, puis s'écria « Toi, Jean-Noël, comme tu es gentil d'être venu! Je me dépêchais justement parce que je pensais que tu viendrais ce soir. » Ils remontèrent ensemble jusqu'à l'hôtel en ne parlant que du plaisir qu'ils avaient l'un et l'autre de se revoir. « Attends-moi un instant, » dit-elle, « je vais poser ces paquets au bureau. » Par-dessus un rideau, il vit Annie les remettre à une femme de chambre, puis s'immobiliser devant le casier des lettres, ce qui lui serra un instant le cœur. « Je ne t'ai pas fait trop attendre, » dit-elle peu après. Il lui proposa, comme une chose amusante, d'aller s'asseoir à la terrasse d'un café du boulevard Saint-Michel. « Oh oui, » répondit-elle, « ton père aimait tellement cela. » Ils descendirent la rue Soufflot. Aux paroles qui avaient jailli spontanément, au début, avait succédé une sorte de gêne. « Est-ce que tu es content ?» demanda Annie. Jean-Noël répondit affirmativement. Elle lui posa alors 1000 questions sur ses ambitions, sur ses lectures. Elle lui demanda s'il avait continué ses études. Boulevard Saint-Michel, elle admira la jeunesse qu'elle croisait. Tout avait changé. On vivait dans une autre époque. Si Jean Melchior avait pu revoir ce quartier, il ne l'eût pas reconnu. Devant un café, ils s'arrêtèrent. Annie laissa son beau-fils choisir une table, appeler les garçons. Un marchand de tapis s'approcha d'eux. Jean-Noël eut, un instant après, l'impression que sa belle-mère, elle aussi, était émue. Ne s'était-elle pas excusée, avec le plus grand sérieux, d'avoir envoyé le marchand sans avoir consulté son beau-fils? Ils se sourirent. « J'ai appris que tu étais mariée avec Mademoiselle Wurzel, » dit finalement Annie. « Est-ce vrai ?» Jean-Noël se troubla, n'osa répondre. Comme si elle ne s'apercevait de rien, Madame Ettlinger lui demanda s'il était heureux. Ce fut à la première question qu'il répondit. « C'est vrai, mais comment le sais-tu ? » « Par Madame Mourier, » répondit Annie en regardant son beau-fils de telle manière qu'il crut, durant un instant, qu'elle n'avait pas changé et qu'elle allait lui demander, de cet air étonné qui lui était particulier, s'il avait défendu alors de dire qu'il était marié. « Je suis très heureux, » se hâta d'ajouter Jean-Noël. Annie ne lui fit aucune observation désagréable sur les Wurzel. Elle lui affirma au contraire qu'elle se réjouissait qu'il menât une vie régulière, quoique cependant elle ne l'approuva pas entièrement de s'être séparée d'une femme aussi bonne que Madame Mourier. Elle lui demanda encore si sa nouvelle femme était intelligente, si elle s'intéressait à l'enfant qu'il avait eu de son premier mariage. Il répondit qu'Odile avait beaucoup de cœur, qu'elle regrettait, ainsi que lui d'ailleurs, que le soin d'élever cet enfant eût été laissé à Marguerite. Annie, elle aussi, parut le regretter. Elle avait bien changé. Comme ces gens qui disparaissent un certain temps et qui, lorsqu'ils reviennent dans un monde qui fut le leur, se sentent des étrangers, elle ne risquait aucune critique. Finalement, Jean-Noël osa interroger sa belle-mère. Qu'avait-elle fait au cours de cette dernière année? Pourquoi ne lui avait-elle pas écrit? Elle eut alors cette expression qu'elle avait toujours eue quand on lui posait une question, même anodine, expression qui signifiait que sa personne n'avait aucune importance et que tout ce qui la touchait ne méritait pas qu'on en parlât. « Oh !» répondit-elle, « ce qui m'arrive n'est jamais intéressant. » Puis, comme si ce retour sur elle-même lui avait rappelé certaines obligations, elle manifesta le désir de rentrer. En cours de route, Jean-Noël apprit cependant qu'elle était à Paris depuis une semaine, qu'elle ignorait combien de temps elle resterait à l'hôtel, qu'elle se remettrait à faire de la peinture, si toutefois elle recouvrait sa tranquillité d'esprit. De ces ombres de confidence, il ressortait qu'Annie était un peu désemparée, du moins ce fut ce qu'en conclut Jean-Noël. Et quand, devant l'hôtel, après s'être enquis de ce qu'elle allait faire de sa soirée, elle lui répondit qu'elle se réjouissait de finir un livre, il ne put s'empêcher de lui demander si elle ne croyait pas qu'il serait plus agréable pour elle d'habiter rue de Babylone. Elle dut sentir ce que son beau-fils avait pensé, car au lieu de répondre à cette invitation, elle dit qu'elle avait une chambre charmante, qu'elle y passait des heures agréables, en y préparant elle-même du thé et en lisant. Comme elle s'apprêtait à prendre congé, Jean-Noël l'invita à faire encore quelques pas. Le soleil n'illuminait plus que le dôme du Panthéon. Le ciel était d'un bleu foncé, l'air très doux. Elle hésita, puis dit, en saisissant le bras de Jean-Noël, « C'est cela. Allons, descendons jusqu'au Luxembourg et revenons. Nous vivons un jour tellement exceptionnel. »